réplique « Qui étaient les Français d'Algérie ?» avec Pierre Nora et Benjamin Stora. Le colonialisme tourmente aujourd'hui encore la conscience française, comme en témoigne, entre autres, l'hommage ambivalent rendu à Jules Ferry par notre président de la République tout nouvellement élu et les discours qu'il a prononcés lors de son récent voyage en Algérie. Mais si le concept est présent et bien présent, on ne parle plus guère de la réalité humaine qu'il recouvre. L'occasion de combler cette lacune m'est aujourd'hui fournie par la reparution, 50 ans après, de l'essai de Pierre Nora, « Les Français d'Algérie ». Cette nouvelle édition est accompagnée d'une longue et surprenante lettre de Jacques Derrida à l'auteur. Avec Pierre Nora, j'ai donc invité Benjamin Stora, l'historien incontournable du Maghreb, afin qu'ils nous éclairent l'un et l'autre sur les valeurs, les comportements, les contradictions et le destin de cette population française. Et d'abord, Pierre Nora, pourquoi, dans quelles circonstances avez-vous commencé, tout jeune universitaire, votre carrière d'historien public par ce livre ?
Eh bien, Alain Finkielkraut, c'est après 2 ans de séjour en Algérie où j'avais été envoyé par De Gaulle, si j'ose dire, en 1958, après l'agrégation. Et au retour, j'avais publié un témoignage de professeur en Algérie dans l'Observateur. Et plusieurs amis, dont Jean-François Revel, Christian Bourgois, m'ont beaucoup poussé à développer cet article en un petit livre écrit à la hussarde, mais qui a paru à un moment absolument convulsif de la guerre d'Algérie, puisque c'est le mois du putsch des généraux à Alger et le mois de l'ouverture des négociations à Évian, destinées, elles ont échoué pendant un an, à faire la paix en Algérie, dans une atmosphère donc de quasi-guerre civile. Alors, ce petit livre, j'ai eu la surprise, puisque vous parlez de Derrida, parlons-en tout de suite, qu'il ait un accueil très large, parce que précisément le problème des Français d'Algérie était littéralement nodal, si j'ose dire, dans la situation, et parce que j'y mettais, peut-être on va y revenir, en cause les libéraux d'Algérie, qui étaient en principe les seuls à avoir milité pour la paix. J'ai eu la stupeur de recevoir, 15 jours après, c'est-à-dire à peu près au lendemain du putsch des généraux, une lettre de mon ami Jacques Derrida, à côté de qui j'avais été en cagne et avec qui j'étais resté en rapport. Et cette lettre manuscrite à la Derrida faisait 52 pages, oui, avec rature, paperole, etc. Alors, ce texte a un grand intérêt parce que Jacques Derrida, juif, philosophe, internationalement plus tard connu comme philosophe, ne s'est jamais exprimé sur l'Algérie natale, sur la guerre d'Algérie. Au point même qu'on a dit que son silence était presque coupable et que, comme beaucoup de juifs d'Algérie, il était plutôt OAS, mais n'osait pas le dire. Alors, cette lettre très belle prouve à la fois un profond accord avec moi et un profond désaccord, et au fond une ligne camusienne qu'il défendait lui-même.
Alors justement, je ne m'attendais pas à parler de la lettre de Derrida tout de suite, mais vous m'y invitez, Pierre Nora, et c'est une des grandes surprises de ce livre que cette espèce de chiasme, ce chassé-croisé entre vous, et je demanderai à Benjamin Stora ce qu'il en pense. Vous avez créé le débat, Pierre Nora, au début des années 80, et ce terme, le débat, a résonné avec une grande force. C'était le débat contre une intelligentsia qui pensait la politique sous le paradigme de la guerre, le débat contre le combat. Vous réintroduisiez donc le libéralisme dans la vie intellectuelle. Derrida est devenu, en France, après Sartre, après Foucault, après Bourdieu, l'ultime incarnation de la radicalité. C'est ainsi d'ailleurs qu'il a été quasiment sanctifié par les Inrecuptibles. Or, nous lisons votre livre, Les Français d'Algérie, et ce livre est extrêmement radical. C'est-à-dire, vous y exprimez une opinion très critique à l'égard des Français d'Algérie. Non, toute l'Algérie n'est pas fasciste, tous les Français ne sont pas ultras, toute l'armée ne torture pas, mais le fascisme, les ultras, la torture sont la France en Algérie. Et j'aurai d'autres phrases du même type. Vous n'épargnez pas les libéraux, notamment, et là nous y reviendrons, Germaine Tillon et Albert Camus. Et qui est, dans cette affaire, le libéral qui vous dit que vous avez tort de penser que l'argument de la complexité justifie toutes les démissions, c'est Derrida. C'est Derrida qui, effectivement, reprend à son compte les arguments de Germaine Tillon, ceux d'Albert Camus, contre la volonté de trancher définitivement le lien entre l'Algérie et la France. C'est pourquoi je parlais de chiasme. La radicalité de votre côté, au fond, vous êtes plus sartrien que camusien dans cette affaire, et le camusien, c'est en effet Jacques Derrida.
Oui, je crois qu'il ne faut pas s'embarquer dans une comparaison Sartre-Camus là. La vérité, c'est qu'il faut expliquer que ce petit livre d'historien est arrivé à un moment où on ne parlait des Français d'Algérie qu'avec beaucoup de compassion, qu'en comprenant la situation extraordinairement menacée qu'ils vivaient et le risque que chacun d'eux courait tous les jours. Si bien que la solidarité avec ceux que l'on n'appelait pas d'ailleurs les Français d'Algérie, mais les Européens d'Algérie, et rien que mon titre a en effet un caractère presque polémique, un peu comme celui de Jules Roy qui avait appelé « La guerre d'Algérie » quelques mois avant son petit livre, alors qu'on ne parlait que des événements d'Algérie, ce petit livre était destiné à ne pas se laisser aller à cette solidarité compassionnelle qui faisait qu'on s'enlisait à chaque possibilité de faire la paix par sentiment vis-à-vis des Français d'Algérie. Et le dernier incident avait été évidemment la visite de Guy Mollet en 1956 à Alger, élu par un front républicain destiné à faire la paix, premier voyage à Alger, et devant les tomates des Français d'Algérie, il a plié bagage et s'est résigné. De la même façon, Lacoste, comme Soustelle, avait été envoyé comme résident généraux avec des sentiments libéraux et progressistes, et quelques semaines après leur arrivée, s'était converti, puisque c'est à Lacoste qu'on doit à Alger, la torture en Algérie, enfin, sinon militaire, mais du moins la période la plus dure, et à Soustelle aussi le revirement. Alors, à chaque fois, il y a eu captation absolument des Français d'Algérie. Et ce qui est intéressant, je crois, dans ce livre, c'est d'expliquer précisément cette espèce de panique permanente, qui est une panique historique, qui datait depuis le début de la colonisation. Et ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est décrire une situation unique. On connaissait le colonialisme et ses méthodes. On savait ce que c'était que trois départements français. Mais trois départements français vivant en fait en situation coloniale dont ils dénient la brutalité et l'existence. Ce mixte extrêmement subtil de supernationalisme vis-à-vis de la métropole et d'attachement profond à une Algérie qu'il voulait posséder à beaucoup d'égards en possédant les Arabes aussi. Cette terrible haine-amour des Français d'Algérie pour l'Algérie. Toute cette situation très ambiguë d'une population en situation coloniale, tout en étant encore une fois français absolument, ça n'avait pas été décrit. Et je voulais le décrire dans la profondeur historique, c'est-à-dire depuis 1830, et comment les sédiments même depuis 1830 de la démographie, de la population, avaient enkysté, il n'y a pas d'autre mot, ces 800 000 Français dans un immobilisme historique suicidaire.
Alors, Benjamin Stora.
Enfin, moi, je pense que le mérite essentiel du livre de Pierre Nora, 50 ans après, c'est qu'il contient énormément d'intuitions sur la description de la réalité algérienne de cette époque-là, le rapport à l'islam, le rapport intercommunautaire, le rapport à la violence. Et surtout, pour rebondir sur ce que vient de dire Pierre Nora, et c'est là le mérite essentiel de ce livre, c'est de réinscrire dans la longue durée historique l'histoire des Français d'Algérie, alors que précisément eux-mêmes sont quelque part hors de l'histoire et n'ont pas le sens de la temporalité historique. Ils vivent dans le présent. Ils vivent dans un présent immédiat, dans une insécurité aussi. C'est dit sans arrêt tout au long du livre. Cette peur qui est la leur tout le temps, la peur du nombre aussi, la peur démographique, la peur d'être submergé, entre guillemets, qui est tout le temps présente. Et donc, ils sont tout le temps, quelque part, prisonniers du présent, sans avoir un regard porté sur la durée historique. C'est-à-dire, quel est, dans le fond, le problème de leur légitimité sur cette terre, sur cette histoire, et notamment dans leur méconnaissance absolue de l'immense monde musulman paysan, d'ailleurs. Parce que le monde musulman est un immense monde paysan à près de 90%. Donc ils sont enfermés dans ce présent sans véritablement s'inscrire dans une durée historique. Et c'est un paradoxe d'autant plus étonnant qu'ils se réclament d'un super nationalisme français alors que la plupart d'entre eux viennent d'Espagne ou d'Italie.
Et qu'ils ont été naturalisés.
Alors, par le décret de 1889.
Mais Benjamin Stora, une petite question personnelle également. Pierre Nora nous dit qu'il est allé en Algérie pour y enseigner pendant 2 ans. Il commençait donc sa carrière de professeur. Et vous, quel est votre rapport exact à l'Algérie ?
Bah moi, j'y suis né. Donc j'y suis né. J'ai quitté l'Algérie à l'âge de 12 ans. J'appartiens à la communauté juive de Constantine, oui, qui est une vieille, très ancienne communauté. Une des plus anciennes, d'ailleurs, communautés juives du Maghreb. Une des plus nombreuses aussi, par son importance numérique, par la pratique rituelle de la religion. C'est une ville très religieuse, hein, la ville de Constantine, tant du point de vue du judaïsme que de l'islam, d'ailleurs, puisque c'est dans cette ville qu'est né aussi le grand mouvement musulman des Oulémas. Donc il y avait aussi cette grande tradition historique. Mais en même temps, et j'ai essayé de l'expliquer dans un de mes livres qui est Les Trois Exils,
il
y avait cette extraordinaire passion des Juifs d'Algérie pour la France et pour la République.
Mais justement,
cette grande passion républicaine.
Est-ce qu'il y avait chez vous, dans votre famille, et est-ce que cela vous a été transmis, justement, quand même, un sentiment de solidarité avec les Européens ou les Français d'Algérie?
Nous nous considérions comme des Européens.
Oui.
Nous étions à l'intérieur du monde européen.
Il faut rappeler que depuis 1870, il faut rappeler que depuis 1870, par un célèbre décret Crémieux, les Juifs d'Algérie, pour les dissocier justement du monde arabe, avaient été adoptés français.
Je dis cela, Benjamin Stora, parce que dans un de vos livres, vous expliquez que vous avez été militant trotskiste, que vous avez donné très vite une très grande proximité avec le FLN, etc. Proximité dont vous êtes détaché.
Non, pas le FLN, parce que moi, lorsque j'ai commencé à travailler sur le nationalisme algérien, je travaillais sur le MNA de Messali.
Oui, pardon.
C'est pas pareil.
Non, c'est pas pareil. Dieu sait.
Ce n'est pas pareil.
Mais donc, c'est ça, jusqu'où allait chez vous, dans votre famille et chez vous, individu, cette solidarité avec les Français d'Algérie? Que vous vous sentiez français, je le comprends, mais est-ce que vous vous êtes détaché assez vite d'une communauté que vous sentiez en proie des humeurs ou des rétractations un peu pathologiques?
Il y avait à la fois ce sentiment très fort de l'appartenance à la communauté française de manière incontestable, mais en même temps, Vichy était très proche, 10 ans seulement. Et les Français, les Juifs français d'Algérie avaient été victimes de Vichy, j'ai pas le temps de m'y attarder. Et ils savaient que les Européens, je l'ai écrit aussi, et Pierre Nora l'a dit aussi dans son livre, de manière très juste, mais ils savaient aussi que les Européens avaient véhiculé derrière eux toute une histoire antisémite. L'histoire de Drummond.
Drummond était député d'Alger.
Député d'Alger, Max Régis, enfin tout ça.
Inouï, Max Régis.
Voilà, Morino, le maire de Constantine, qui sortait un journal qui s'appelait l'Anti-Juif. Et mon père m'a toujours enseigné cette espèce de vigilance qu'il fallait exercer sans cesse sur la question de l'antisémitisme. Donc, il y avait à la fois cette passion française pour la République et en même temps cette méfiance vis-à-vis d'une histoire française qui pouvait à tout moment se retourner contre eux. Donc, ils étaient dans l'entre-deux, d'où leur neutralité et le silence, et qui les rapprochait d'ailleurs beaucoup de la position de Camus. Dans le fond, ils étaient sur une position très camusienne.
Pierre Nora, vous êtes sévère et en même temps, vous êtes obligé aussi de montrer quels ont été les apports positifs de la colonisation. Parce que vous parlez du rôle de la médecine dans l'explosion démographique. La mort au rythme industriel a été vaincue, mais la natalité n'a pas pu être jugulée. D'où, vous venez de le dire, Benjamin Stora, la peur du nombre. Et c'est ce qui vous fait écrire, Pierre Nora. Le besoin d'être rassuré tourne à l'idée fixe. C'est le thème le plus irritant, mais le plus constant des éditoriaux depuis 3 ans. Les Français d'Algérie voudraient être sûrs que, en cas de négociation, aucune garantie ne sera assez clairement stipulée. Il manquera toujours la linéa métaphysique qui permettrait aux Français d'être définitivement rassurés. Mais à la lumière de ce qui s'est passé, ne peut-on penser que justement, ils avaient raison d'avoir peur? Mais la peur était lucide. Or, vous avez l'air de dire que ça, c'est un peu...
Mais non, pas du tout. Leur peur était extrêmement lucide, mais elle était l'ultime avatar présent d'une irresponsabilité historique et d'une culpabilité, si j'ose dire, historique, je ne parle pas individuelle, nette. Je crois qu'on l'avait complètement oublié. Moi-même, au moment où j'ai fait ce petit livre, encore une fois, à la va-vite, j'avais lu très rapidement les mémoires de Bugeaud, de Saint-Arnaud, du docteur Vital, de Ismaël Urbain, de tous les témoins qui racontent, de Tocqueville lui-même qui a fait un voyage, dont je cite une phrase de Tocqueville disant « On ne peut pas imaginer la violence de l'occupation française sur ce monde arabe, et si elle ne cesse pas, il faut partir parce que il y aura une rébellion qui nous chassera. » Et la violence, Bugeaud disant « il faut brûler tous les Douars, il faut assassiner tout le monde, il faut... » etc. La violence a été quelque chose d'inhérent, malgré tout, à l'occupation de la présence. Alors ça, c'est complètement gommé, complètement oublié. Le refus de la moindre concession de la part du groupe des Français d'Algérie, pour ne rappeler que la plus grosse, au moment du Front populaire, lorsque le sénateur Violette, collaborateur de Léon Blum, avait conseillé d'admettre à la citoyenneté française qui ? Les anciens combattants de l'Algérie décorés. Ça faisait une centaine de députés, de gens qui auraient pu voter à la française. Eh bien, les 300 maires d'Algérie se sont rebellés au nom de toute la population française d'Algérie. Blocage. Autrement dit, toute l'histoire de l'Algérie, c'est l'histoire d'un blocus historique. Et je pense d'ailleurs qu'il y a là une réflexion à faire sur le rôle des premiers arrivants dans une colonie qui donne le ton très vite et les autres suivent. Et je pense qu'il y a là quelque chose qui rapproche probablement historiquement l'Algérie, mettons même de l'Amérique, du point de vue du statut historique. Et on vit toujours sur les premiers pionniers, si j'ose dire, sur l'atmosphère des pionniers. Alors, l'enracinement a beau être grand, il ne va pas généralement au-delà du grand-père quand même, sauf pour les Juifs précisément. On a oublié tout ça. Et Stora a tout à fait raison de dire cette espèce de anhistoricisme avait quelque chose de tel qu'il était bon qu'un historien le rappelle.
Vous êtes d'accord avec ça, Benjamin Stora?
Ben, je pense, oui, que l'histoire algérienne est inséparable de la violence qu'ensuite les hommes vont porter de manière intérieure, dans les rapports humains, dans les rapports à l'histoire, dans les rapports interindividuels, dans les rapports intercommunautaires, qui sont marqués du sceau de cette violence intrinsèque tout au long de l'histoire algérienne, oui. Et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs.
Mais quand même, vous reconnaissez, Pierre Nora, dans votre livre toujours, le dernier chapitre, que l'Algérie est avec, à certains égards, l'Afrique du Sud, le seul de tous les pays coloniaux du XIXe siècle où s'est développée une population qui n'est plus directement liée à l'appareil colonial, et cette profonde originalité suffit à en faire un cas radicalement différent à la fois des pays sous-développés et des pays colonisés. Vous dites ailleurs que cette comparaison avec l'Afrique du Sud ne doit pas être poussée trop loin, parce que la société algérienne n'est pas une société d'apartheid. Hein, les Européens et les Algériens musulmans avaient des contacts, contacts quotidiens sur la place du marché, dans les clubs sportifs, les transports publics, mais aussi sur les lieux de travail, dans les organisations syndicales. Et Camus rappelle, puisqu'il faut en parler, vous le critiquez assez vivement dans un chapitre sur les libéraux, ainsi que Germaine Tillon, Camus dit « 80% des Français d'Algérie ne sont pas des colons, mais des salariés et des commerçants, et il rappelle que ceux-ci sont attachés à l'Algérie par des racines trop anciennes et trop vivaces pour qu'on puisse penser les en arracher. » Alors là, je vous demande à l'un et à l'autre si, que faire de cette affirmation-là, et est-ce qu'on en a assez tenu compte, aussi bien du côté du FLN que du côté de la métropole ? Benjamin Stora.
Il y a incontestablement un monde du contact dans cette société coloniale, bien sûr. Il y a une très grande porosité qui existe entre les individus, et même avant la guerre ou même pendant la guerre d'Algérie, les efforts de scolarisation qui pouvaient exister, c'est incontestable. Mais en même temps, est-ce qu'il y avait une réelle mixité sur le plan, j'allais presque dire sexuel ? Non. Sur le plan de la culture, non. La plupart des Européens d'Algérie, des Français d'Algérie, voyageaient très très peu. C'est-à-dire, ne connaissaient pas l'intérieur de l'Algérie. Moi, j'ai un souvenir personnel. Je connaissais surtout la ville de Constantine, la ville de Philippeville avec la plage de Stora, mais je ne connaissais pas le reste de l'Algérie, que j'ai découvert qu'après l'indépendance, et notamment en travaillant sur l'histoire de l'Algérie. Donc les mondes étaient séparés quand même. On se connaissait peu et mal, et il y avait cette sorte de peur de l'autre par manque de connaissance de l'autre. Les mariages mixtes étaient quasiment impossibles. Il y avait très très peu de fréquentation, si ce n'est, et c'est là l'intuition très 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 belle du livre de Pierre Nora, si ce n'est précisément en direction des musulmans francisés qui constituaient les vrais libéraux. C'est-à-dire ces libéraux dont les figures étaient celles de Ferhat Abbas ou du docteur Benjelloul, qui étaient véritablement ces libéraux dont il parle très justement. Et ça, c'est une grande intuition que j'ai vue dans ce livre qui est très bonne. Et donc, il y avait dans le fond un monde du contact réel, parce qu'il y avait la République proclamée aussi en Algérie. Elle était proclamée, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, oui, sur le fronton des écoles, mais rarement appliquée et mise en œuvre. Quand on regarde les chiffres, disons, de scolarisation des enfants musulmans en 1954 et même en 1962, lorsque l'Algérie va accéder à son indépendance, les chiffres sont dans le livre de Pierre Nora. La relève générationnelle en termes techniques, en termes, disons, de professeurs, de médecins, de chirurgiens, de personnel qualifié est très faible. Très, très faible.
Parlez...
Donc il y a cette espèce de décalage entre une république proclamée, oui, et les pratiques effectives. C'est un faux modèle de république, en fait.
Ce que dit Benjamin Stora me donne envie de rebondir sur deux points. Le premier, c'est sur la responsabilité de la gauche politique française. Quand je dis responsabilité, ce n'est pas une responsabilité simplement individuelle. Mais il faut bien comprendre que c'est la gauche qui avait, pendant tout le XIXe siècle, plus ou moins pour être schématique, milité pour une espèce d'assimilation. C'est eux qui avaient fait les départements français. C'est eux qui avaient fait les écoles, qui enseignaient aux petits arabes, nos ancêtres, les Gaulois, etc. Et que cette gauche a eu un mal énorme à se convertir à l'idée d'une indépendance algérienne. Parce que ce qu'elle défendait, c'était les petits Français d'Algérie, c'était les petits pieds noirs qui étaient justement sans défense et qui auraient été les premiers victimes, et qui ont été les premières victimes après, et pas les gros colons qui avaient de quoi revenir à Marseille et à Paris. Donc, il y a eu une sorte, et je pense que ça explique beaucoup de cette espèce d'intransigeance du ton que j'ai eu pendant ce livre, parce que c'est au fond, et je le partage avec Derrida, la colère de jeunes gens de gauche contre les partis de gauche dont Guy Mollet était l'image type.
Oui, bien sûr.
Donc il y a une situation, si vous voulez, qui là aussi a été historiquement bloquée. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'en contrepartie de ce que vous attribuez de sévérité à mon jugement, j'ai dit dans le dernier chapitre si les Français revenaient, il ne se passerait rien. Et ce serait... nous vivions à l'époque, pour tout dire, dans l'idée que si les Français d'Algérie étaient amenés à revenir, il y aurait en France une crise économique à cause du million de Français, et que ce serait le fascisme parce que les militaires les accompagneraient. et que donc, coûte que coûte, il fallait que la négociation obtienne des garanties absolues de survie et de sécurité des Français d'Algérie. Et personnellement, je pensais dans la droite ligne de mon analyse historique qu'ils reviendraient tous et qu'il ne se passerait rien. Parce qu'une fois qu'ils seraient en France, ils redeviendraient des citoyens comme les autres, et que s'ils n'étaient pas serrés et contraints par cet étrange poids d'une situation historique anhistorique, ils redevenaient des Français comme tout le monde, si j'ose dire.
Mais en même temps, il faut quand même voir que ce départ forcé a été un arrachement, étant donné précisément cette sorte de patriotisme algérien qu'on ne doit pas refuser de reconnaître aux Français d'Algérie.
Oui, mais là, il y a quand même De Gaulle, il faut dire un mot. Aussi la politique de De Gaulle qui a amené la panique du retour des Français d'Algérie.
Alors ça, on rentre dans... Mais je voudrais aussi signaler un aspect sur le problème, disons, de la séparation et qui s'est aggravé pendant la guerre d'Algérie, c'est aussi la nature du nationalisme algérien. Parce qu'il faut aussi s'attarder sur cette question-là, rapidement. Parce que
c'est
abordé aussi dans le livre de Pierre Nora, parce que la nature du nationalisme algérien va progressivement évoluer pour passer d'une stratégie d'assimilation républicaine portée par Ferhat Abbas dans les années 30 à une sorte de volonté d'autonomie pour ensuite basculer de manière radicale vers l'indépendantisme, avec aussi un courant politique que la gauche française de l'époque radicale, la gauche sartrienne, avait sous-estimé, qui était le facteur religieux, la place de l'islam dans le nationalisme algérien, notamment dans les campagnes portées par la paysannerie algérienne. Or, cette question-là, de la radicalité progressive, disons, d'un nationalisme à base arabo-musulmane, notamment exprimé à partir de 1956 par l'intervention sur la Suez, c'est quelque chose de très important, va aussi, quelque part, effrayer les Français d'Algérie. C'est-à-dire qu'il y a, dans la montée en puissance d'un radicalisme politique du nationalisme algérien, le sentiment aussi de la peur qui va grandir, que ne va pas effacer la nomination de Ferhat Abbas à la tête du GPRA, c'est-à-dire en septembre 1958, puisque Ferhat Abbas était considéré comme un modéré, disons, francophile, républicain musulman. Et donc il y a eu quand même, disons aussi, progressivement, ce sentiment de panique qui s'est emparé d'une grande partie de cette communauté face, disons, à un nationalisme algérien qui n'avait pas pour habitude d'évoluer dans la pluralité. On a en mémoire, on l'a expliqué avec Mohamed Harbi dans un récent ouvrage qu'on a publié ensemble, on a en mémoire l'élimination des partisans de Messaliad. C'est pour ça que tout à l'heure, j'insistais un peu sur la différence, disons, entre le MNA et le FLN.
Parce qu'il y a eu un massacre.
Oui, absolument. Donc ça, c'est quand même très important. Mélouza en particulier. Voilà. On ne peut pas comprendre, par exemple, la position d'Albert Camus, si on ne se réfère pas aussi à Mélouza. Je veux dire, en mai 1957, c'est un contexte historique très précis qui l'oblige, disons, à réfléchir différemment. Il passe d'un comportement de la trêve civile en janvier 1956, donc d'une sorte de volonté de négociation avec le FLN pour aller vite, à, après Mélouza, une sorte de refus et donc de condamnation et d'enfermement et de solitude
et de silence.
Donc tout ça, c'est en fonction, je veux dire que c'est un couple aussi. Je veux dire, les Français d'Algérie évoluent à la fois dans un environnement qui est le leur sur le plan historique, on a décrit, je pense très bien, d'enfermement sur soi, qui par parenthèse se traduit politiquement par le fait qu'ils n'ont pas d'élite politique qui les représente véritablement. Ils n'ont pas cette représentation politique à la mesure de leurs espoirs, de leurs désirs, de leurs peurs. Ça n'existe pas. D'hommes politiques suffisamment courageux qui puissent leur dire cette vérité énoncée en grande partie dans le livre de Pierre Nora. Il n'y a pas eu ces hommes politiques venant de ce monde-là. Et puis, une radicalité très grande. Je pense en particulier à ce que disait Jean Daniel dans un de ses livres, lorsqu'il discutait avec Boumengel, et que lorsque Jean Daniel lui posait la question sur la place des Juifs dans l'Algérie indépendante. Je cite cette phrase dans mon livre sur les trois exils, et que Boumengel lui a dit « Tu sais, il y a eu trop d'injustices, trop d'inégalités, trop de violences. Je pense que le curseur va se déplacer de manière radicale dans un sens arabo-musulman. » C'était la phrase de Boumengel que Jean Daniel a rappelée récemment. Et je crois que tout le monde savait ça vers la fin.
Mais cette ambiguïté profonde, si vous voulez, cette ambiguïté profonde de la situation, puisque vous parlez de Camus, elle est en Camus. Et une de mes fiertés, je dirais, carrément, dans ce petit livre, c'est d'avoir essayé de le prendre comme exemple à propos de son livre « L'étranger ». C'est-à-dire que Camus est l'homme qui a été le plus libéral, le plus généreux, le plus compréhensif vis-à-vis du monde algérien, l'auteur de La misère en Kabylie, son premier grand reportage.
1939.
Bref, un homme impeccable à tous égards. Et puis, comme romancier, dans L'étranger, où Sartre avait fait une analyse philosophique de son livre en disant que c'était le roman de l'absurde, eh bien, il m'avait paru que c'était un roman très historique, très algérien, profondément, et que, en particulier, la dernière scène où Meursault, le héros, dans un état d'affolement, tire sur l'arabe inconnu sur une plage, était au fond l'expression involontaire de l'inconscient collectif des Français d'Algérie. Et que cet homme qui était le plus, encore une fois, libéral qui soit, était celui qui, comme artiste et comme romancier, avait le mieux exprimé le fantasme du meurtre collectif des presse-boutons, si j'ose dire, de tous les Arabes. En effet, je comprends que ce petit livre ait fait scandale, si vous voulez.
Oui, mais alors justement,
affiché balde.
Pour ce qui est de
mais quelle ambiguïté.
Édouard Saïd, dans un livre Culture et impérialisme, dit que finalement Camus est une figure impérialiste très tardive. Que son œuvre est un élément de l'histoire de l'affirmation française, de l'effort français aussi de garder l'Algérie française. Et il conclut par cette phrase absolument stupéfiante. « Pour un Algérien, 1962 représentera probablement la fin d'une longue et malheureuse époque inaugurée par l'arrivée des Français en 1830 et l'ouverture triomphale d'une ère nouvelle. » On peut quand même s'interroger depuis 50 ans s'il a raison, et on peut aussi ne pas réduire complètement l'œuvre de Camus à cette espèce d'aveu involontaire de l'étranger, parce que vous citiez Jean-Daniel Benjamin Stora, dans son livre Albert Camus, Jean-Daniel rapporte une conversation avec Camus qui résume très bien sa position et comment résonne-t-elle aujourd'hui. On ne peut pas accepter une logique qui va jusqu'au sacrifice de sa communauté. La mienne, la nôtre, est faite des non-musulmans d'Algérie, que l'on ne nous parle pas des Français, des Italiens, des Espagnols ou des Juifs. Il y a les musulmans, il y a les autres. Chacun sait que c'est la vérité et on fait semblant de ne pas le savoir.
Il a eu le courage de mener cette... Ça aurait été facile pour lui de basculer d'un côté ou d'un autre. Il a eu le courage, finalement, de vivre ce calvaire et d'être condamné au silence.
Mais oui. Il y a chez Camus, et à travers cette phrase, on le voit bien aussi, ce qui constitue un peu la psychologie des Français d'Algérie de cette époque, surtout vers la fin de l'Algérie française, c'est la peur de l'évanouissement et de la fin d'un monde, de son monde, oui, et de sa disparition, et de l'absence, à partir de là, de toute une mémoire et de toute une tradition historique qui risque de partir, de s'évanouir. Je crois que l'attitude de Camus, c'est cela. C'est-à-dire, c'est, dans le fond, vous nous expliquez beaucoup de choses très justes, très vraies, sur nos erreurs, sur ce que nous avons fait, ce que nous n'avons pas pu faire, etc. Mais aujourd'hui, dans le fond, nous allons disparaître. C'est-à-dire que notre histoire va partir. Et c'est devant cette peur de l'absence et de la disparition que Camus réagit, en fait, fondamentalement, sur ce monde ancien qui va s'effondrer. C'est aussi ce qui s'est passé, d'ailleurs.
Mais il y a aussi, chez lui, le refus de croire en l'histoire, de croire à son caractère irréversible et justifié. Il dit « La répression française n'a aucune justification, aucune excuse, nous le disons. Il faut dire la même chose. Si nous combattons pour la justice, donc, à la différence de ceux qui vont simplement dans le sens de l'histoire, au sujet des méthodes du FLN qui voient dans chaque Français en Algérie, dans chaque civil, un représentant du colonialisme oppresseur. » Cette position libérale, dans votre livre, encore une fois, Pierre Nora, vous la congédiez. Vous
dites je vais vous dire pourquoi, en lui tirant mon chapeau.
Oui.
Mais je la congédie parce que son heure était passée. Et parce que dans l'état de totale guerre civile en Algérie, puisque c'était la guerre civile, avec l'armée française elle-même déchirée, puisqu'une partie torturait, une partie condamnait la torture, une partie se rebellait, d'autres voulaient rester fidèles, il faut se rendre compte de ce qu'a représenté de la part de Gaulle cette espèce de chirurgie qui a consisté à couper le fil de la République indivisible pour donner finalement l'indépendance à l'Algérie. Oui. C'est quelque chose qui est énorme. Si on se privait de l'accord, imaginez l'Algérie à Marseille. Mmh. Eh bien, on y sera encore. si j'ose dire, parce que, c'est la Corse, parce que c'est l'Alsace.
Mais pourquoi dans votre livre ne pas faire une plus grande place à, justement, la violence du FLN? Vous en parlez, mais parce que vous dites, vous parlez du racisme de la société française, mais n'y avait-il pas une sorte de racisme du côté des nationalistes algériens, dans la mesure même où ils se réclamaient de l'islam, pour certains d'entre eux, même du FLN, et donc, au fond, ne voulaient rien avoir à faire avec les Européens.
Mais bien sûr, et on ne se faisait pas beaucoup d'idées à l'époque sur ce que serait l'avenir de l'Algérie après le départ des Français d'Algérie. Mais, encore une fois, je dirais, c'est le moment. Mon sujet n'était pas la situation algérienne, la guerre d'Algérie en général. Elle était de faire émerger ce continent obscur et jamais regardé vraiment, et qui était à l'interface de trois grands problèmes: le nationalisme français par rapport à la France, le contact avec l'islam à travers et un islam qui était justement par le canal de Suez et commençait à devenir une sorte d'obsession occidentale, et l'armée, dont vous oubliez l'omniprésence à l'époque, l'omnipotence à l'époque, et qui était une armée battue coloniale en Indochine, et qui vivait en Algérie son ultime chance de gagner une guerre qui était encore à sa pauvre mesure.
Oui, Benjamin Stora, je voudrais maintenant peut-être vous voulez dire répondre
non,
à quelque
non,
chose.
Non.
Alors,
qui se considéraient comme les protecteurs de l'Algérie contre les Français.
Contre les Français, oui, bien sûr.
Et donc, ce sont des gens qui sont morts par fidélité à leurs engagements en Algérie, je veux dire les militaires, et je les comprends, je ne dis pas que je les approuve, mais de cette espèce de haine par rapport à De Gaulle qui les a tout simplement trahis.
Trompés, oui. Mais maintenant, parlons d'un événement particulier. La débâcle finale, un événement qui s'est produit après l'écriture de ce livre, peu après. Donc les accords d'Évian sont signés, les Français d'Algérie partent dans une très courte période, au printemps, été 1962, en panique et massivement. Première question, pourquoi les choses se sont-elles passées ainsi? Et puis, question subsidiaire, aurait-elle pu se passer autrement? Mais d'abord, pourquoi? L'historien
bravo
répond
aussi,
sur
bravo si, si.
Pour en
si
revenir au livre de...
rapidement.
Oui, parce que là, il nous reste peu de temps en plus. Mais pour en revenir au livre très rapidement de Pierre Noir, moi, j'ai fait une découverte en lisant ce livre qui a été publié en 1961. C'est l'utilisation du mot pied noir. Parce que vous l'utilisez dans le livre à l'époque. Alors que dans mon esprit, le mot pied noir... pour qualifier les Français d'Algérie, mais dans la période pratiquement de l'été 62, au moment de leur arrivée en France. C'est assez étonnant de voir que dans ce livre, enfin c'est un insiste que je fais, est très importante, parce qu'on a tellement discuté autour de l'origine de ce terme, qui est quand même l'objet de l'émission d'aujourd'hui, donc que j'ai été très surpris de voir ce terme utilisé dans le livre.
Pour les auditeurs, qu'on ne sait pas très bien quelle est l'origine.
Voilà, du mot pied noir. Enfin, bon, alors maintenant, sur les raisons de la panique, de la débâcle, je crois qu'elles sont inséparables de ce que je disais tout à l'heure sur l'état de peur et d'angoisse qui a saisi la communauté française d'Algérie, notamment après toute une série d'événements historiques, l'échec du putsch d'avril 61, ils avaient placé beaucoup de confiance dans l'armée française. Et puis la résolution du général de Gaulle d'aller très vite, très très vite dans le fait de trancher, disons, ce nœud gordien. Ils avaient le sentiment de la trahison et de l'abandon, hein, qui est quand même très très fort. Et puis, encore une fois, on en revient toujours au même débat, la méconnaissance du nationalisme algérien, donc la peur de l'autre, la peur de ce qui allait se passer, la peur, dans le fond, de n'avoir plus leur place, hein, de ne plus trouver leur place à l'intérieur d'une société algérienne nouvelle. Parce qu'il y avait eu aussi l'histoire ancienne, beaucoup de sang coulé, il y a eu ce qu'on a appelé le terrorisme, bon, qui a existé pendant la guerre d'Algérie, des Européens sont morts aussi dans les villes, etc. Donc il y avait aussi du sang, le sang qui avait coulé. Ça, il ne faut pas oublier aussi cette dimension. Qui a coulé avec les attentats de l'OAS contre les musulmans, à Oran et à Alger, etc. Mais aussi contre les Européens. Parce qu'il y a eu les enlèvements.
Il y a eu une multitude d'enlèvements qui ont évidemment terrorisé
Absolument.
Légitimement, les Français.
La fin de l'Algérie française a été absolument épouvantable. Après la signature des accords d'Évian, notamment, on a eu assisté à des enlèvements, des plasticages. C'était une guerre civile qui est très violente.
Moi, j'étais collé au mur, au bas de la rue Michelet, par un commando OAS, où avait été envoyé par l'Observateur le journal en Algérie. Ouais. Et je ne dois qu'à un hasard. J'étais d'ailleurs avec une historienne de l'Algérie. Et puis à ce moment-là, je ne peux pas ne pas raconter une petite histoire. C'est qu'à ce moment-là, je suis allé à Oran. Et figurez-vous qu'à mon hôtel, c'était juste la veille du jour où Ben Bella rentrait à Alger. Et je vois Boumengel à Oran venir me chercher à mon hôtel pour m'amener à l'hôtel de ville, à la préfecture, où était Ben Bella. J'en revenais pas. Et Ben Bella me reçoit les bras ouverts. Vous imaginez, alors pour le coup, le sentiment de vivre l'histoire qui m'a pris. Et Ben Bella me dit, ben voilà, je voudrais vous faire une proposition. Je rentre demain à Alger. Je voudrais que vous soyez à ma droite dans ma voiture. Parce qu'il avait lu les Français d'Algérie en prison et qu'il avait... Alors tout d'un coup, une illumination m'a prise, c'est qu'il m'avait pris pour Benjamin Stora, c'est-à-dire pour un juif d'Algérie, alors que je lui ai dit que j'étais un juif d'origine alsacienne et vécu à Paris. Alors l'entretien s'est terminé en 30 secondes, il m'a dit « Vous êtes toujours le bienvenu, mon frère, en Algérie, mais... »
Ah oui, ça ne vous intéressait pas, c'est
moi. Non, ça ne l'intéressait pas que je...
Donc il voulait,
mais s'il y avait eu Benjamin Stora, il l'aurait pris dans sa voiture.
J'étais trop petit quand je suis parti le 12 juin 1962.
À ce moment-là, quand même, c'était un jour historique et il faisait grande impression.
Ben Bella.
Il sortait de prison et il allait prendre le pouvoir.
Et en même temps, Ben Bella a déclaré, des années après, il a eu cette phrase incroyable dans Politique internationale, je crois, un entretien, « Les Arabes veulent être et pour être, il faut que l'autre ne soit pas ». Et
il avait trop lu de littérature française, dont la mienne, et puis celle de Derrida et celle de quelques autres.
Je ne sais pas. Mais enfin, c'est effectivement pour en revenir
à la panique, effectivement, il y a aussi le sentiment chez les Français d'Algérie de l'hostilité de la métropole qui est fort et de l'incompréhension. Et à partir de ce moment-là, je crois, et ça, c'est, là, je me réfère plutôt à une expérience très personnelle, il y a une sorte de grande solitude qui s'installe chez eux et la solitude des incompris, en fait. C'est-à-dire de ceux qui n'arrivent pas à se faire comprendre à l'intérieur de la société métropolitaine dans l'été et après l'été 1962. Et c'est là une autre histoire qui va commencer.
Mais est-ce que l'intention des nouvelles autorités algériennes était de conserver une présence française importante ou au contraire de procéder à ce qu'on a appelé depuis un vaste nettoyage ethnique?
Ça, je ne crois pas. Franchement, je ne crois pas parce qu'il y a eu effectivement des enlèvements d'Européens à Oran, il y a eu effectivement des exactions qui ont été commises, c'est évident, mais il n'y a eu, et on n'a jamais découvert de traces écrites d'ordre d'épuration ethnique dirigée par ce qu'on appelle les autorités algériennes. Par parenthèse, je ne sais pas trop ce que ça veut dire dans l'été 62, parce que les Algériens nationalistes étaient totalement divisés entre eux, entre l'armée des frontières, le GPRA, la Fédération de France. Enfin, je passe sur ces détails. Bref, il n'y a pas d'autorité algérienne. Il faut quand même avoir bien présent à l'esprit le fait que l'État algérien ne s'est véritablement construit qu'à la rentrée, qu'à la fin de l'année 1962, avec notamment l'entrée de Ben Bella, etc. Bref, je crois que c'est surtout le sentiment de panique et de peur qui va s'emparer du gros de la communauté française d'Algérie. Mais ce qu'on sait moins, c'est que des Français d'Algérie sont restés après l'indépendance. Et ils s'en sont tous partis après. Non. Les pieds rouges sont arrivés après. Des pieds noirs qui sont restés et qui sont ensuite partis progressivement. Près de 200 000 sont restés en Algérie.
Et pourquoi sont-ils partis alors ?
Eh bien, ils sont partis parce qu'il y a eu le coup d'État de Boumediene, qui a, installé l'armée au pouvoir, parce qu'il y a eu la guerre israélo-arabe de 1967, qui a fait partir ensuite les Juifs d'Algérie, enfin ceux qui étaient restés. Puis ensuite, il y a eu les nationalisations de 1971, de Boumediene, et qui ont fait partir aussi une série d'entrepreneurs, etc. Après, je ne vais pas réciter ici et décliner toute l'histoire de l'Algérie après son indépendance, mais tout ça pour dire qu'il y avait la possibilité pour des Français, de rester dans le sens où ils espéraient la possibilité d'une Algérie plurielle. Ils espéraient cette possibilité-là. Ces Français d'Algérie-là, dont dans le fond, on a assez peu parlé jusqu'à présent, c'est-à-dire de ceux qui ont cru dans une Algérie indépendante et qui sont nés en Algérie, mais qui sont partis progressivement.
Mais en même temps, je voudrais... Alors d'abord, je voudrais lire, puisque vous en avez parlé, l'interprétation donnée par Daniel Lefeuvre dans le livre que vous avez co-dirigé, Benjamin Stora avec Mohamed Harbi, La guerre d'Algérie, de l'expression « pied noir ». Il dit C'est intéressant. Hein. L'origine se trouverait à Casablanca en 1952. Une bande de jeunes Européens du quartier du Mahari, amateurs de cinéma américain et animateurs de manifestations contre les nationalistes marocains, s'était baptisée du nom de Pieds Noirs en référence à la tribu indienne. Voilà. Bon,
c'est une découverte de Guy Pervilliers.
Je livre cette interprétation.
Oui, mais je crois que c'est Guy Pervilliers qui le...
Mais là, deux anecdotes, si vous voulez. Enfin, deux choses que vous racontez, Benjamin Stora, dans le même livre. Et je trouve très révélatrice. Et je voudrais vous demander, à vous, Pierre Nora, à Benjamin Stora, de les commenter. En 1961, le 22 juin 1961 exactement, le chanteur et musicien Raymond Leiris, dit Cheikh Raymond, l'un des plus grands maîtres de la musique arabo-andalouse, beau-père d'Enrico Macias, est abattu d'une balle de 9 mm dans la nuque par un Algérien musulman au cœur du quartier juif de Constantine. C'est pour beaucoup de juifs le signal que ce n'est pas possible. Or, quelques semaines après, et ça c'est aussi très émouvant, Ferhat Abbas, chassé de la direction du GPRA, de retour en Algérie après 6 ans d'absence, tombe dans les bras d'Elie Stora, adjoint au maire de Kenchela, qui lui dit « Maintenant Ferhat, tu vas nous construire notre belle Algérie ». N'était-il tout simplement pas trop tard, non ? Est-ce que c'était pas trop tard pour construire
cette belle
Algérie ?
Il y a toujours ce sentiment du trop tard en Algérie, des choses qui ont bifurqué, qui n'ont pas abouti, qui ne se sont pas réalisées. Bref, des occasions perdues, sans arrêt. C'est encore une fois le grand mérite du livre de Pierre Nora d'avoir mentionné tout ça. Mais il y avait effectivement chez les Juifs d'Algérie le sentiment d'un immense gâchis, parce qu'ils avaient aussi cette histoire passionnelle avec l'Algérie de plusieurs siècles, par la musique, par les traditions, par la langue arabe aussi, dans la ville de Constantine en particulier. Ce n'était pas le cas à Alger et Oran, mais à Constantine, oui. Et il y a par conséquent toujours eu cet espoir de la médiation, du juste milieu, qui n'a pas pu être possible à un moment donné. Pierre Nora veut dire un mot.
Benjamin, qui était ému à ce que vous avez dit, Alain, je l'ai vu, a dit une phrase extraordinaire. Là, il a parlé de la présence des Français depuis plusieurs siècles.
Des Juifs d'Algérie, pardon.
Voilà. Et alors, ça me pousse à dire, puisqu'on arrive un peu à la fin, et à soumettre à Benjamin Stora une hypothèse. C'est que ce sont les Juifs d'Algérie qui sont la quintessence des Français d'Algérie. C'est-à-dire ceux qui ont gardé le plus intensément le drame psychologique et historique, ceux qui ont vécu la fin du monde algérien comme une sorte d'apocalypse Shoah, qui ont vécu le retour en France comme une espèce d'absolu holocauste, et qui, du coup, ont à la fois développé vis-à-vis de la France une sorte d'hostilité à beaucoup d'égards, qui était aussi depuis 1940, puisqu'il vivait une deuxième exclusion de la France. Et en même temps, ce peuple de la mémoire a gardé la mémoire, alors que beaucoup des autres Français d'Algérie, avec courage, une fois arrivés ici, ont voulu tourner la page, oublier leur drame et, avec leurs enfants, refaire leur vie.
Ils ont refait leur vie. En même temps, pour beaucoup d'entre eux, ils ont une certaine nostalgie au cœur. Mais maintenant, je voudrais revenir au temps présent pour finir. Beaucoup d'années ont passé depuis l'indépendance de l'Algérie. Je ne suis pas sûr qu'on puisse parler effectivement des effets positifs du colonialisme. Il y a eu certes l'action médicale, un développement démographique dont nous avons parlé, des débuts de l'instruction publique, la mise sur pied d'infrastructures qui soutiennent encore l'Algérie aujourd'hui encore. Il y a eu l'injustice, il y a eu le crime fondamental, mais précisément, la critique du colonialisme n'est-elle pas aujourd'hui, pour les autorités algériennes, une sorte d'alibi commode qui leur permet de ne jamais s'interroger sur leur propre crime d'hier et sur le marasme d'aujourd'hui? Et n'avons-nous pas tort, nous-mêmes, nous Français, de leur fournir constamment cet alibi, Benjamin Stora?
L'histoire sert à la légitimation du pouvoir, bien sûr. Et c'est une matrice décisive pour qui veut comprendre la nature de l'État algérien d'aujourd'hui. C'est le réservoir inépuisable de symboles qui sont sans arrêt utilisés et jetés pour pouvoir se légitimer. Néanmoins, je fais quand même une parenthèse, le nationalisme est profond dans la société algérienne compte tenu du nombre de morts en Algérie. Plusieurs centaines d'Algériens sont morts dans la guerre d'Algérie. Donc, ça veut dire que c'est de milliers de morts d'Algériens. Et ce qui fait que le discours du pouvoir algérien peut, disons, s'adosser aussi à quelque chose qui est partagé. Mais je dirais également que cette absence de critique de soi par rapport à ce qui s'est passé dans la guerre, malheureusement, quand on lit la masse immense de livres sortis par les Français d'Algérie en titre de témoignages, d'autobiographies, etc., des centaines et des centaines d'ouvrages, bien peu, font la critique d'eux-mêmes par rapport à ce qui s'est passé.
Vous parlez bien peu en Algérie ou bien peu en France ?
Non, il y a l'autocritique algérienne qui est faible.
Oui.
Et il y a l'autocritique, disons, des Français d'Algérie sur eux-mêmes qui est faible également.
Qui est faible aussi.
Il y a une critique de soi qui est très faible dans toute cette histoire. Il y a beaucoup de plaidoyers pro domo, mais très peu de critiques de soi, d'où l'intérêt d'un livre qui vient de sortir de Pierre Nora.
Bon, bah écoutez, merci. C'est une conclusion, inespérée, si je puis dire. Alors, je rappelle le titre du livre de Pierre Nora, « Les Français d'Algérie », édition revue et augmentée, notamment donc d'une longue lettre de Jacques Derrida. Également, il y a un dossier critique où l'on trouve des articles d'Albert-Paul Lantin, de Jean Lacouture, de Germaine Tillon, sur ce livre lors de sa parution en 1961.
Et une superbe préface de Charles-André Julien, aujourd'hui non un peu connu, mais qui a été professeur à la Sorbonne et un grand libéral, et qui raconte tout l'effort du libéralisme pour aboutir à un résultat.
Nous avons aussi parlé du livre de Benjamin Stora, « Les trois exils juifs d'Algérie », publié aux éditions Stock, et j'ai cité « La guerre d'Algérie », le livre publié chez Robert Laffont, disponible aujourd'hui en poche, c'est vrai, sous la direction donc de Mohamed Harbi et de Benjamin Stora. Vous trouverez les références bibliographiques de l'émission sur le site réplique-franceculture.fr, où cette émission est téléchargeable un an et réécoutable 1000 jours. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « La République et les écrivains ». Mes invités seront Mona Ozouf et Alain Gérard Slama. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et de Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Manuel Couturier. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.